En route vers les Paralympiques 2024, c'est une série de 4 émissions où nous regardons ensemble la programmation des Jeux de Paris, tout en nous attardant sur un sport en particulier, en passant du temps avec un ou une athlète et son entraîneur ou son ou sa partenaire d'entraînement. En s'appuyant sur une couverture médiatique accrue, nous souhaitons vous donner le goût de suivre les différentes compétitions et peut-être même d'applaudir les exploits d'athlètes que nous aurons connus davantage. Les Jeux paralympiques de Paris 2024 compteront 22 sports au programme pour 23 disciplines, le paracyclisme en comprenant 2, paracyclisme sur piste et sur route, et un total de 549 épreuves réparties sur 269 sessions, matin, après-midi, soirée, en 11 jours de compétition. Je m'appelle Yvan Deslauriers et tout ça en route vers les Paralympiques de 2024. Selon le site Paris 2024, Paris et la France accueilleront les premiers Jeux paralympiques d'été de leur histoire. Paris 2024 voit les choses en grand et réinvente la cérémonie d'ouverture en la sortant du cadre d'un stade traditionnel. Le 28 août, à 20h, heure de Paris, la place de la Concorde et les Champs-Élysées serviront d'écrin à cette célébration sans précédent au cœur de la ville. La cérémonie s'ouvrira par une parade populaire sur la mythique avenue des Champs-Élysées, où défileront jusqu'à 184 délégations originaires du monde entier. Les spectateurs pourront vivre au plus près des 6000 athlètes et officiels ce temps de partage festif et inoubliable ouvert à tous. Aucune compétition n'aura lieu le 28 août, ce qui permettra à une majorité d'athlètes et d'accompagnateurs d'y participer et de vivre ce moment grandiose. Dès le lendemain, samedi 29 août, plusieurs compétitions démarrent. Basket en fauteuil, boccia, goalball, para-badminton, paracyclisme sur piste, para-natation, para-taekwondo, para-tennis de table, para-tir à l'arc, rugby en fauteuil, et volleyball assis seront à l'honneur. Dès ce premier jour, les premières médailles seront décernées en paracyclisme sur piste, paranatation et para-taekwondo. Le lendemain, le para-athlétisme, le para-aviron, le para-tir sportif et le tennis en fauteuil débuteront. Dans plusieurs sports, on vivra des finales et des remises de médailles. Vous trouverez le calendrier de ces activités, y compris une version accessible sur le site Paris 2024. La paranatation a depuis longtemps permis à des athlètes québécois de se distinguer. Pensons à Benoît Huot et plus récemment à Aurélie Rivard. Sabrina Dufresne est née à Québec le 17 avril 2001. Malgré ses jeunes 23 ans, elle en sera à ses troisièmes Jeux paralympiques, ayant remporté le bronze en relais 4x100 mètres style libre à Tokyo. À Paris, elle participera, pour l'instant, aux épreuves du 100 mètres libre et 400 mètres libre, la distance qu'elle affectionne. Lorsque nous nous sommes parlé en juillet, j'ai eu le plaisir de converser avec une jeune femme joviale, dédiée et déterminée, qui a su mener de front des études universitaires en criminologie et un calendrier d'entraînement extrêmement exigeant. Son année 2023, avec une troisième place aux 400 mètres libres et une cinquième place aux 100 mètres libres des championnats mondiaux de paranatation, lui laisse croire qu'elle pourrait être prête, sinon sur le podium de Paris. Voici donc cette entrevue avec Sabrina Dufresne. Dans le cadre de cette émission paralympique sur la paranatation, j'ai le très grand plaisir de recevoir Sabrina Dufresne. Alors, Sabrina, bonjour.
Bonjour.
Que fait une athlète qui fait partie de l'équipe canadienne de paranatation pour les Jeux paralympiques de Paris à une quarantaine de jours des Jeux?
Beaucoup d'entraînement.
Beaucoup d'entraînement, oui.
Oui, beaucoup d'entraînement. En fait, je veux dire, j'ai pas augmenté le nombre d'entraînements que j'ai, mais c'est sûr qu'on travaille beaucoup sur des points techniques. En ce moment, on a augmenté un petit peu le millage, l'intensité. Fait que c'est quand même intense, mais ça se fait bien, ça se fait bien.
Est-ce que d'ici à la tenue des Jeux, est-ce qu'il va y avoir des périodes plus tranquilles ou ça va juste augmenter en intensité?
Pour le moment, ça augmente en intensité, mais c'est sûr que juste avant les Jeux, là, on a une période qu'on appelle le taper en anglais, là, qui nous, c'est, mettons, environ une semaine avant notre course, on commence à ralentir un peu, là, une semaine ou deux, là, dépendant de l'athlète et de sa façon de s'entraîner et comment que ce taper-là, entre guillemets, l'affecte. Moi, ça va être environ, c'est ça, une semaine avant ma course, là, je vais prendre l'intensité va descendre, puis le nombre de mètres aussi dans l'eau va descendre.
Je comprends. Vous savez que vous avez la réputation d'être une personne souriante dans la vie.
Et
déjà, votre réaction vient juste soutenir la réputation que vous avez. D'ailleurs, votre photo sur le site de Natation Canada est magnifique. De toute évidence, ce n'était pas un sourire forcé. Est-ce que vous souriez effectivement tout le temps, y compris quand vous nagez?
Je souris souvent. Quand que je nage, ça dépend de la pratique, ça dépend de l'entraînement. Mais oui, normalement, je me le fais dire quand même souvent, là, je suis une personne assez souriante, oui.
Vous vivez avec la dysparésie spastique. Qu'est-ce que c'est?
La dysparésie spastique, en fait, c'est une forme de paralysie cérébrale. Ça peut affecter, moi, c'est comme une sous-catégorie, un peu la dysparésie spastique, si on peut dire. Puis moi, ça l'affecte mes jambes, spécialement ma jambe gauche. Fait que c'est vraiment une question de démarche et d'équilibre dans mon cas.
D'accord.
Puis spastique à cause que j'ai de la spasticité dans les jambes.
Qu'est-ce que c'est, ça, de la spasticité?
C'est un peu complexe à expliquer sans vraiment être capable de voir, mais c'est un peu un réflexe qui est non voulu. En contexte de physiothérapie, souvent que mes physios s'en rendent compte, là, c'est par exemple, on peut pousser contre ma jambe, puis je vais devenir plus raide, puis je vais repousser contre la personne. Mais c'est pas moi qui veux ça, qui fait ça. C'est vraiment comme un réflexe. C'est ça. La meilleure description, ce sera un réflexe.
Je comprends. Est-ce que le fait de vous entraîner de façon aussi intensive a un effet bénéfique sur votre santé?
Oui, certainement. J'ai un peu remplacé la physiothérapie que je faisais pour mon handicap, pour mes jambes, par la natation, en fait. Fait que c'est sûr que pour moi, là, je peux parler pour moi, la natation a un effet bénéfique. Je veux dire, c'est un sport qui aide à renforcer toutes les parties du corps. Je veux dire, il n'y a pas une partie qui ne bouge pas, qui ne travaille pas. Fait que c'est vraiment un sport très complet, oui.
Mm-hmm. J'avais lu quelque part, justement, que quand on est nageur puis on veut améliorer sa technique, on devient très sérieux en natation, on s'en va au centre de natation de Montréal. Mais quand on est paranageur, on fait le chemin inverse, on s'en va à Québec. Est-ce que vous êtes de cet avis-là?
Moi, en fait, j'ai jamais été au Centre national à Montréal. J'ai toujours décidé de rester à Québec avec mon entraîneur puis ma gang à Québec parce
oui.
que j'ai commencé avec le Rouge et Or dans le club école à l'âge de 7 ans. Fait que ça fait vraiment longtemps que je nage là. Puis mm-hmm. si je peux dire, je suis un peu tatouée Rouge et Or là. fait que pour moi, il était pas vraiment question de changer pour Montréal. Les autres, je sais pas qu'est-ce qu'ils préfèrent vraiment, mais c'est sûr que là, à Québec, on commence à avoir pas mal de monde.
Ça va être vos troisièmes Jeux paralympiques et je connais votre âge, si vous avez commencé bien jeune. Comment est-ce que vous imaginez ces Jeux à Paris comparativement à ceux de Tokyo où on était en pandémie puis c'était beaucoup plus, les conditions étaient beaucoup plus restrictives?
C'est sûr que je m'attends à quelque chose de vraiment bien. J'essaie toujours de ne pas avoir trop d'attentes, mais en même temps, c'est sûr que en contexte de COVID, Tokyo, c'est, je veux dire, une expérience de paralympique, c'est magique, mais en tant que COVID, c'est sûr que ça l'a peut-être enlevé un petit peu de, tu sais, de porter des masques même à l'extérieur, dans le village des athlètes, être séparé dans les cafétérias. Tu sais, il y a plein de choses qu'on va retrouver à Paris, comme on avait à Rio, qui vont rendre l'expérience encore meilleure.
Mm-hmm. Vous allez participer à quelles épreuves lors des Jeux de Paris?
À Paris, je vais participer aux 400 mètres libres et aux 100 mètres libres.
Qu'est-ce que vous préférez, 100 mètres ou 400 mètres?
400 mètres, c'est même pas une question. Le 100 mètres libre est vraiment mon épreuve bonus. J'adore le 400, puis c'est ce que je suis le meilleur à nager aussi. Le 100 mètres libre, j'aime moins ça, puis je suis moins bonne un peu. J'imagine que ça vient avec, là, quand t'aimes moins quelque chose, t'es moins bon aussi. Là, mais fait que, ouais, non, 400 mètres libres, oui.
Pourtant, vous avez gagné une médaille de bronze à Tokyo dans le relais 4 fois 100 mètres. Et là, ma prochaine question, qu'est-ce que vous préférez, les courses individuelles ou à relais?
Courses individuelles aussi. oui, à Tokyo, j'ai gagné une médaille au relais. J'étais pas censée faire le relais, mais on m'a mis dessus pas mal dans les dernières minutes. Ça a été, je pense que le 400 mètres à Tokyo avait super bien été, mais il avait pas été exactement... Je m'attendais encore mieux. Mm-hmm. Fait que je m'étais dit, bon, mais pour le 100 mètres, je vais juste vraiment avoir du fun puis donner tout ce que j'ai. Puis j'avais un relais avec mes meilleurs amis. Fait que je pense que c'est ça qui a aidé un peu là, l'aspect de juste avoir du fun.
L'aspect ouais. de gang.
Exact, oui.
Vous avez deux Jeux paralympiques sous la ceinture. Comment vous envisagez votre performance lors des Jeux de Paris?
J'imagine et je m'attends à une performance qui est meilleure qu'à mes deux derniers Jeux, c'est certain, parce que je veux dire, je veux toujours m'améliorer, je veux toujours faire meilleur, c'est sûr, mais aussi parce que j'ai plus d'expérience dans la natation en tant que telle et dans une situation de Jeux paralympiques. Fait que je sais un petit peu mieux comment gérer mes courses. On a travaillé beaucoup ça dans la dernière année à comment j'allais gérer mon 400 parce qu'avant, j'avais une stratégie de course, mais je la faisais pas comme j'aurais dû la faire, là, si je peux dire. Fait que je pense que cette année, ça va être juste mieux.
Excellent. Maintenant, je vais essayer de rejoindre votre entraîneur, Emmanuel Verger. C'est votre entraîneur depuis longtemps, je pense.
Officiellement, à 100% depuis, ben, je veux dire à temps plein, là, depuis peut-être les deux dernières années. Mm-hmm. Mais il y a toujours, là, depuis que je suis arrivée dans le Rouge et Or, il a toujours été là ou dans les alentours. J'avais un autre entraîneur avant qui a pris sa retraite. Ensuite, on a eu un entraîneur de la Colombie-Britannique qui est venu pour 3 ans. Donc, j'avais lui, on l'appelle Manu, excusez-moi, mais Manu a toujours été dans les environs puis il me connaît depuis que je suis toute petite. Là, fait que c'est là maintenant d'être à temps plein avec lui, je pense que c'est lui qui me connaît le plus puis c'est le plus comment faire mes entraînements comme il faut puis m'aider dans tout ce processus-là.
Superbe. Même si vous êtes toute jeune encore, est-ce que vous envisagez déjà Los Angeles 2028 dans vos plans?
Ça, c'est une grosse question. Si on était un an auparavant, j'aurais dit non, absolument pas, parce que j'avais beaucoup de misère avec la motivation dans la natation, puis j'étais vraiment pas sûre. Là, après Tokyo, j'ai failli arrêter, j'ai eu mm-hmm. beaucoup de misère dans les dernières années. Okay. Mais cette année, avec justement le changement d'entraîneur qui a été très positif de mon côté, puis les performances qui ont commencé à aller bien, j'envisage peut-être de continuer. Je me dis, je me donne un an, je veux continuer une année de plus, c'est certain, parce que j'ai des années universitaires aussi à faire avec l'équipe qui me reste. Mais c'est pas un oui, mais c'est pas un non plus.
Je comprends. Et justement, vous m'ouvrez la porte sur ma prochaine question. Gérer des études universitaires, c'est en criminologie, et une carrière de nageuse de haut niveau, comment on fait ça?
Pour ma part, ça s'est toujours bien fait parce que j'ai pris la décision au secondaire même là, de continuer mes études à temps plein malgré la natation à temps plein. Parce que je me suis toujours dit un peu mes entraîneurs aussi qui nous ont toujours dit en étant dans une équipe universitaire, il faut que tu sois à temps plein pour mm-hmm. pouvoir participer aux compétitions. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis je veux pas arrêter non plus parce que, ben, premièrement, j'ai toujours été une personne qui n'avait jamais voulu prendre de retard non plus dans ses études. Mais pas que ce serait négatif, mais je veux avoir quelque chose pour après la natation si jamais ça arrête. ça aurait à arrêter plus rapidement que prévu. Puis ça me garde occupée aussi. Puis je suis une personne qui aime ça être occupée et avoir tout le temps de quoi à faire. Fait que les études, puis en plus j'adore le sujet que j'étudie, la criminologie, j'adore ça. Fait que je pense que ça m'a beaucoup aidé tout ça ensemble.
Super. En terminant, j'ai fouillé pas mal et j'ai appris que vous avez un plaisir gourmand, c'est des McFlurry au Oreo. Est-ce que vous permettez cette gâterie-là une fois de temps en temps d'ici aux Jeux paralympiques?
Ah oui, bien sûr.
Oui, bien sûr.
C'est vrai, je me rappelle même plus, j'avais ça dans la bio de Swimming Canada. Je pense que
oui, c'est
là depuis 2015.
Oh, est-ce que ça a changé?
Non, je crois pas que ça a changé. J'adore les McFlurry Oreo. Oui, bon, je me permets pas ça à toutes les semaines, mettons, mais une fois de temps en temps, là, ça fait du bien pour le moral.
Superbe. Sabrina Duchesne, ça a été un délice d'avoir cette conversation-là avec vous. Je vous souhaite des Jeux olympiques que vous vous souviendrez pour toutes sortes de bonnes raisons. Alors, merci beaucoup d'avoir passé un peu de temps avec nous.
Merci à vous, ça a été mon plaisir.
Au revoir. Comme nous l'a dit Sabrina Dufresne lors de son entrevue, l'entraîneur est la personne qui ajuste le tir, encourage, corrige, prépare les entraînements, suggère les prochaines étapes et des objectifs exigeants mais réalistes. Pour elle, cet entraîneur est Emmanuel Verger. Entraîneur de profession, il se dit lui-même un éducateur. Depuis de nombreuses années en France, en Suisse et au Québec, il est maintenant l'entraîneur-chef du Rouge et Or de l'Université Laval, en charge des nageurs universitaires et seniors. Dans l'entrevue qui suit, il nous raconte son parcours, sa façon de travailler avec Sabrina et ce qu'il faudra surveiller de ses performances pour évaluer ses possibilités de podium. Nous allons parler maintenant avec l'entraîneur de Sabrina Duchesne, Emmanuel Verger. Bonjour, M. Verger.
Bonjour.
Vous êtes l'entraîneur-chef de natation du Rouge et Or de l'Université Laval, en charge des nageurs universitaires et seniors, mais vous avez été entraîneur à différents niveaux, en France, en Suisse, au Québec, depuis 1985. Racontez-nous ce choix de profession, entraîneur en natation, et quelques éléments de votre parcours qui vous amènent finalement jusqu'à la ville de Québec.
Moi, j'étais nageur. Je joue au rugby aussi, mais j'étais nageur au départ. Puis en 83, à peu près, j'ai commencé à entraîner des jeunes nageurs, à faire l'apprentissage des jeunes nageurs. Mm-hmm. Et en 84, j'ai décidé d'en faire un peu ma profession. Donc, j'ai fait une formation en France. Puis j'ai commencé après, j'ai travaillé pendant 9 ans en France à apprendre un peu ma profession, même si à côté de ça, j'étais obligé de faire un peu d'autres choses, d'autres métiers pour en vivre.
Oui, bien sûr.
En 94, j'ai immigré au Québec parce que j'avais vu que ici au Canada, les entraîneurs étaient plus professionnalisés. Donc j'ai immigré en 94 au Québec. Là, j'ai continué mes formations ici au Québec. Mm-hmm. En 2003, je suis parti en Suisse sur un projet olympique avec un gros club suisse à l'époque. Je suis resté en Suisse jusqu'en 2009, jusqu'après les JO de 2008, où malheureusement, on n'a pas réussi à qualifier un ou deux nageurs. Mais en 2009, j'ai qualifié des nageurs sur les championnats du monde à Rome en 2009. Et en 2009, j'ai décidé de revenir au Canada parce que j'en avais un peu assez de la Suisse là. Et donc je suis revenu en 2009 au Canada. J'ai commencé par un petit club, puis en 2010 j'ai eu un poste ici à l'Université Laval.
Comment vous vous décririez comme entraîneur?
Je suis avant tout éducateur, c'est-à-dire que c'est en France, le premier diplôme que j'ai, c'est plutôt un diplôme d'éducateur sportif, option natation sportive. Et donc, c'est plus cet aspect-là que je travaille, surtout avec les universitaires. Ben, c'est quelque chose qui est important, on va dire, même si on essaye de faire du très haut, du bon niveau là, mm-hmm. de natation, mais mm-hmm. c'est surtout un niveau éducateur.
Vous êtes l'entraîneur de Sabrina Duchesne. Est-ce que vous avez choisi la paranatation ou c'est la paranatation qui vous a choisi?
J'ai pas choisi la paranatation. J'entraîne un groupe senior, un groupe universitaire senior. Mm-hmm. Puis Sabrina, parce que c'est parti de Sabrina. Sabrina, ça fait... parce que ça fait plus d'une dizaine, une dizaine d'années, ça va faire plus d'une quinzaine d'années qu'elle nage au sein du Rouge et Or Natation dans les groupes de jeunes. Il se trouve qu'il y a 2 ans, elle a gradué à l'université.
Oui.
Donc, par ce fait même, on l'a admis dans notre groupe universitaire parce qu'elle avait le niveau aussi pour pouvoir le faire. Mm-hmm. Et pour aussi avoir un encadrement un peu plus facile aussi avec elle pour pas qu'elle soit à côté. Et Sabrina, depuis 2016, elle est sur les équipes, 2015 même, elle est sur les équipes nationales, donc elle a un bon niveau, elle va faire aussi ses troisièmes jeux cette année.
Mm-hmm, oui.
Donc elle a un bon niveau de natation, on va dire, niveau international. Puis l'aspect universitaire nous permettait de mieux l'encadrer. Donc elle est arrivée sur l'équipe universitaire, et donc de ce fait-là, je m'en suis plus occupé, on va dire, même si... Avant ça, j'étais à côté de Joanne Girardin, qui était son coach principal là, jusqu'en 2020 ou 2021.
Mm-hmm.
Et donc, je m'occupais un peu de l'aspect technique ou des choses comme ça. Mm-hmm. Mais donc, on va dire, c'est plutôt un fait de...
C'est le hasard de la vie.
Qui est monté, voilà.
Mm-hmm. On a eu le plaisir d'interviewer Sabrina Duchesne un peu plus tôt à l'émission. Décrivez-nous un entraînement avec elle. D'abord, il doit avoir beaucoup de sourires, j'imagine, parce que c'est un rayon de soleil, cette personne-là.
Ça dépend des jours.
Ah,
ça
oui?
dépend des jours et des heures. Disons que le matin, à 6h ou 7h, il y a moins de rayons de soleil.
Oui, mais, oui, à 7h-là, déjà.
Ouais. Sabrina, elle s'entraîne 6 entraînements par semaine, 6-7 entraînements par semaine dans l'eau. C'est 2 heures à chaque fois. Plus après, elle a 2-3 entraînements en salle de musculation avec le préparateur physique. Donc, c'est à peu près 8 à 9 entraînements par semaine.
Mm-hmm.
Ça, c'est une première chose. Puis après, elle passe à peu près 1h30, 2 heures dans l'eau à chaque pratique. Donc, c'est quand même assez conséquent sur un emploi du temps hebdomadaire, sachant qu'à côté de ça, elle est étudiante à temps plein, donc
oui, c'est ça.
Il faut qu'elle fasse de quoi là-dessus.
Oui, il faut qu'elle gère ces deux choses-là. Hein?
Voilà, il faut qu'elle gère ces deux choses-là. Puis donc, c'est des athlètes qui ont quand même des emplois du temps assez chargés.
Mm-hmm. Est-ce que vous travaillez sur quelque chose de spécifique avec Sabrina?
Spécifique avec elle, on travaille sur... C'est surtout son handicap qui nous amène à cette spécificité-là. Donc, elle a une problématique au niveau des jambes. C'est des choses qu'on ne peut pas trop faire, quoi. Le travail de kick, c'est très, très minime.
Ouais.
Parce que la spécificité par rapport aux autres nageurs génériques qu'on appelle, là,
mm-hmm.
C'est justement le fait qu'elle ne peut pas faire de jambes. Donc, c'est assez répétitif parce qu'on ne peut travailler que le haut du corps. Puis même là encore, le haut du corps, on s'était aperçu... Il y a 3-4 ans, elle était souvent, très souvent blessée en haut du corps.
Ah oui.
Et du fait que la natation est un sport d'usure, quand même, c'est un sport répétitif. Il faut aligner des longueurs et des longueurs et faire des coups de bras et des coups de bras. Donc, elle avait beaucoup de blessures au niveau des épaules. Puis là, on a supprimé, depuis 3 ans, 4 ans, on a supprimé les paddles, qu'on appelle.
Oui, oui.
Ou les, mmh. ou les pool boys.
Oui, oui.
Elle nage beaucoup, elle nage complète. Et depuis, je dis pas qu'on a moins de blessures. Je dis pas qu'elle est plus blessée, mais on a beaucoup, beaucoup moins de blessures. Puis on a mis en place des protocoles de soins un peu plus conséquents et un peu plus souvent aussi, qui permettent un peu de gérer tout ça.
Je vois bien le travail d'orfèvre de l'entraîneur là, dans ce cas ici, vraiment. Est-ce que vous avez des espoirs particuliers pour Sabrina pour les Jeux de Paris?
Les Jeux, l'objectif, c'est d'aller chercher une médaille.
Mm-hmm.
Donc, ça, c'est un objectif, très facile à avoir. Mais on ne contrôle rien, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas les autres. Nous, ce qu'on veut faire, c'est essayer d'aller faire un temps qui, lui, on pense, va nous permettre d'avoir cette médaille. Mais en gros, c'est elle est sixième au monde actuellement, 5-6e au monde, et puis... on vise la médaille. On vise une médaille.
Donc oui, c'est 6e au monde, on vise une médaille. Ça veut dire que vraiment, vous vous concentrez sur le temps qu'elle peut produire.
C'est ça. Ce qu'on essaie, c'est qu'elle aille nager à moins de 5,20 ou 5,18, 5,20. Puis on pense que si elle arrive à faire ces 5,18-là, elle devrait pouvoir être sur le podium.
Bravo. Et puis, après Paris, pour vous, qu'est-ce que vous voyez?
Pour moi, personnellement?
Oui.
Moi, après Paris, ça continue. On a encore une équipe universitaire qui recommence à s'entraîner le 20 août ou 22 août prochain. Donc, la saison, il y a une nouvelle saison qui recommence. Sabrina va probablement avoir 2-3 mois de pause après ces Jeux-là. Puis après ça, on a une visée sur les championnats du monde l'année prochaine, au mois d'octobre ou novembre prochain.
Je vous remercie.
Donc ça continue.
Parfait. Je vous remercie énormément, M. Emmanuel Verger. Vous êtes l'entraîneur de Sabrina Duchesne. Je vous souhaite un beau mois d'août.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Bonjour.
Les compétitions à suivre pour Sabrina Duchesne. Le 400 mètres style libre féminin S7 débutera lundi matin 2 septembre, tandis que le 100 mètres style libre féminin S7 se tiendra 2 jours plus tard, mercredi 4 septembre. Dans les deux cas, les finales auront lieu à la fin de ces mêmes journées. Bien sûr, de nombreux autres athlètes canadiens et québécois seront à suivre. Notons particulièrement Aurélie Rivard, Tess Sutcliffe, Katharina Roxon et Nicolas Guy Turbide. Du 28 août au 8 septembre 2024, Geneviève Tardif et Kevin Breton seront les chefs d'antenne des Jeux paralympiques de Paris 2024. Ils pourront compter sur l'ex-paranageur Benoît Huot, Roselyne Fillion et Jean Saint-Onge pour nous faire vivre les Jeux paralympiques en direct de Paris. Une sélection d'épreuves sera offerte en intégralité sur ICI-Tout.tv, en direct et sur demande. À la télé, ICI Télé diffusera 56 heures de programmation paralympique. La couverture quotidienne sera présentée en direct de 15h à 17h du lundi au samedi et de 14h à 17h le dimanche 1er et le samedi 7 septembre. En soirée, Jean Saint-Onge animera une émission sur le terrain du mardi au vendredi à 23h05 et du samedi au lundi à 22h30. Les cérémonies d'ouverture du mercredi 28 août et de clôture du dimanche 8 septembre seront présentées en direct à 13h30 et rediffusées en fin de soirée. Je remercie particulièrement Mathieu Tessier à la technique et Jean-Sébastien à la liberté à la mise en onde. Je m'appelle Yvan Deslauriers, j'ai été impliqué à la recherche et à l'animation. En route vers les Paralympiques est une série de 4 émissions conçues et réalisées par Canal M, la voix de l'inclusion.